création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Depuis des années, Christian Rosset revisite les parcours engagés avec des peintres, des artistes, des écrivains. Depuis 1991, où il rencontre Yann Vos dans son atelier d'Arcueil pour un ACR, Christian Rosset est revenu maintes fois enregistré. Il compare, je cite, le travail du peintre par accumulation, transparence, collage, sans jamais boucher le regard, et le travail radiophonique, où l'on compose avec le son, superposant les matières enregistrées, découpées, agencées dans le temps, comme les signes, le son sur la toile, sans jamais non plus brider les possibilités d'y trouver matière à parcours. Création on air, à la recherche de Yann Vos, par Christian Rosset et Gaël Gillon.
Il y a tout un quartier d'Arcueil qui était plus ou moins abandonné. Hein.
Il y a beaucoup de peintres à Arcueil, je crois.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ont fait faillite. Les peintres ont pris la suite.
Il n'y a pas de faillite de la peinture, contrairement aux petites entreprises.
Parfois, oui.
Arcueil, le 6 septembre 2016. C'est calme ici.
Oui, c'est calme s'il n'y a pas de travaux à côté. Très bien. Très agréable l'atelier.
À la recherche de Yann Vos, Gaël Gillon, Christian Rosset.
Ça fait 56 ans que je suis en France.
Mais à Arcueil ?
À Arcueil, depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années, ou 25 ans, peut-être au moins.
Et donc tu as fait toutes tes peintures pendant ce temps-là en France, pratiquement ?
Voilà, oui.
Et maintenant tu peins à Berlin ?
Maintenant je suis à Berlin tous les deux mois. Je passe un mois à Berlin, un mois ici. Me partage. Ce qui a l'avantage de changer les lieux et de rafraîchir l'atelier chaque mois. Parce que je trouve que l'atelier s'use aussi. Hein. Je veux dire, on prend l'habitude et puis on voit toujours les mêmes choses. Et puis le fait d'arriver quelque part et d'avoir oublié un peu l'atelier avant, ça donne envie de retourner au travail.
La façade de mon atelier est peinte en bleu clair. La porte et les grillages devant les fenêtres en bleu foncé. C'est une façon d'inviter le ciel à en faire autant. Parfois, ce petit stratagème réussit, parfois non. Mais même en cas de pluie et de ciel bas, mon atelier est envahi par la lumière. La pluie bat sur la verrière. Elle fait un tel vacarme que je n'entends plus les gens parler à la radio. Je garde donc un contact avec la nature, ne serait-ce que par l'ouïe. Mais parfois, j'aimerais bien pouvoir sortir de mon atelier et m'en aller avec un chevalet pliant sur le dos et avec une sacoche, à la manière de Vincent peint par Francis Bacon. Mais je sais que l'intensité du réel me submergerait tellement que malgré toute ma bonne volonté, je serais incapable de toute action de peinture.
Voilà, c'est l'atelier. L'atelier, le 7 janvier, c'est ça, 2003.
Aujourd'hui,
il fait moins 3, moins 4.
Non, il fait, dans l'atelier, il fait plus 12.
Ah oui, oui. Et on part avec 12 degrés.
12 degrés, ça va.
Ouais. Date de naissance,
on peut encore.
1936. Donc, j'appartiens à la génération qui a été marquée par la guerre.
C'était à quel endroit exactement ?
Et j'étais relativement épargné parce qu'on n'était pas dans un grand centre, mais un peu sur le bord de Berlin. Quoi. Mais donc, de loin, on a eu une vision de la fin de la guerre qui était assez infernale. Quoi.
Ça reste frappant, ça reste en mémoire ?
Ça reste... Non, c'est... C'est une image qui s'est un peu estampée, évidemment. Et comme toutes les images de la guerre, se sont estampées, et puis étaient relativement rares, en fait. Les plus importantes étaient peut-être l'après-guerre, avec toutes sortes de contraintes, de déprivations, évidemment. Et aussi avec une espèce de doute qui était dans la population et qui se faisait très remarquer, surtout après, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, j'étais une espèce d'hostilité des Allemands, enfin, qui étaient quand même formés culturellement par les nazismes. Et qui n'ont pas tout de suite pu changer de culture.
Rue de Seine. Ma surprise, quand je suis arrivée de Munich en voyant des curieux ou des clients venant du marché de Bussy avec leurs filets remplis de légumes et de fruits et qui entraient avec le plus grand naturel dans les galeries de peinture de la rue de Seine pour regarder des tableaux abstraits.
Quand je suis revenu en France, c'était parce que j'avais une petite bourse pour venir à l'étranger, justement, pour aller à l'étranger. Donc j'ai choisi d'aller à Paris, bien sûr, parce que c'était l'endroit où il fallait aller à l'époque.
Pas New York ?
Non, 60, c'était ça, oui, c'était pas. Mais de toute façon, New York, c'était beaucoup trop cher pour ma petite bourse. Hein. C'était, oui. Et donc, je suis venu avec cette petite bourse et j'ai trouvé, par chance, un lieu de travail. Et donc, je suis resté. Et puis, en fait, aussi, l'Allemagne, dans les années 60, c'était encore un peu triste. C'était l'après-guerre qui se prolongeait, et puis il y avait un petit côté, je sais pas, un petit bourgeois, presque enfin, moi j'étais à Munich, et à Munich, l'atmosphère n'était pas très positive envers les jeunes artistes, disons.
Et le lieu d'origine, Hambourg, c'était pas non plus possible?
J'avais pas envie d'aller à Hambourg, non. Non, mais ça me convenait très bien de venir à Paris, de changer complètement de vie et d'amis et tout ça.
Et de langue.
Et de langue qui était, oui, la difficulté majeure. Voilà. Mais c'était bien aussi parce que tout était à réinventer. Il fallait apprendre la langue, il fallait aussi changer complètement mes idées sur la peinture, sur l'art.
C'était en 1960. Et donc, je suis resté à Paris pendant cette année-là et je me suis cramponné pour les années après, quoi. Ce qui était très difficile parce que j'avais pas d'argent, parce que je veux dire, j'avais des difficultés quand les jeunes peintres qui arrivent à l'étranger. J'étais pas le seul d'ailleurs, j'étais avec des amis portugais qui étaient aussi boursiers. Il y avait d'autres portugais aussi qui avaient fui la guerre d'Angola. Il y avait des réfugiés comme Christo de Bulgarie. Il y avait Hervé Télémac qui venait d'Haïti. Donc il y avait toute une réunion de gens qui étaient plus ou moins réfugiés ou boursiers ou venus comme ça pour rencontrer Paris.
Mot. À mon arrivée en France, j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre et à comprendre les autres. Souvent, j'écoutais la radio pour assimiler un petit peu les mots, la musique des mots et des phrases. Parfois, je répétais un mot simplement pour goûter sa sonorité, sans connaître son sens exact ni son orthographe. et parfois, j'introduisais un de ces mots d'une façon approximative dans un dessin. Parfois, j'alignais même tout un passage de mots que j'interrompais par quelques graffitis figuratifs, faisant un faux petit épisode. Et ça faisait tout un tableau, en fin de compte, avec un titre comme « Des mots en l'air » ou « Mots pour mots ».
Par rapport à la langue française, à l'acquisition de la langue française, Yann, tu as écrit un certain nombre de textes, comme font souvent les peintres, sauf que tes textes sont plutôt des petites histoires, des narrations souvent, des réflexions. Tu les écris directement en français ?
Oui, bien sûr.
Et c'est étonnant, donc il y a vraiment un jeu avec la langue française.
Je suis quand même assez longtemps en France. Je ne parle pas bien le français, mais je lis beaucoup le français. Donc je peux un peu écrire. Enfin, je n'ai pas beaucoup d'idées, mais quand j'ai une petite idée, je peux l'exprimer.
Plus tard, et au fur et à mesure, le mystère des mots s'éclaircissant, ils se sont évanouis du champ de la peinture. Mais il m'est resté une certaine nostalgie du temps de cette mystérieuse opacité du sens des mots.
Le premier titre de la première œuvre importante, c'est La vie parisienne.
Oui, voilà. C'est une chose de 61, je pense, non ? Et c'est une série de tout petits dessins qui font peut-être 15 cm sur 10, qui sont rapidement griffonnés, qui sont inspirés par tous les événements parisiens ou par tous les lieux parisiens aussi. Il y a la Place du Tertre, il y a le Moulin Rouge, il y a des choses comme ça qui sont un peu ironiques aussi en même temps. C'est un peu le rêve de ce qu'il faut voir à Paris.
Il y a pas mal d'humour et d'ironie en général.
D'ironie, un peu de distance de mon propre romantisme parisien. C'est ce que j'ai pensé trouver à Paris quand j'ai pensé à Paris. C'est un peu ça aussi. C'est un peu les images de Paris qui se réalisent sur place en des espèces de
boulangère.
Graphisme rapide.
L'odeur me ravit chaque fois que j'entre dans une boulangerie. Mais quand la boulangère n'est pas blonde, je ressens une petite déception.
Ça m'amuse des fois, oui, de faire ça.
Le mot humour a un sens dans ton travail.
Ah oui, mais l'humour, je trouve que c'est formidable d'avoir l'humour dans la peinture. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on veut avec la peinture, en fait? Finalement, on veut que l'autre, celui qui regarde, un plaisir ou s'amuse avec ou trouve une pensée. Dans l'humour, il y a de la pensée aussi. Hein? C'est pas idiot seulement. Hein? Il y a une idée qui fait sourire et c'est très bien déjà.
Ça, c'est une raquette de tennis qui a fait l'affiche de Roland Garros.
Yann Vos, Arcueil, 11 décembre 1991.
Le début d'une toile, c'est de préparer le support.
Oui, pour moi, c'est souvent un support acheté, déjà préparé. Ou alors le support qui reçoit les pièces à coller. Une toile, s'il s'agit de coller une toile dessus, une autre toile. Du bois, s'il s'agit de coller du bois ou d'autres déchets. Du bois qui, si il faut fixer avec des ficelles ou s'il faut visser. Puis évidemment le papier s'il s'agit d'imprimerie ou de dessin ou d'aquarelle. Voilà, je pense mes supports, c'est le papier, le bois, la toile.
Il n'y a pas de balade dans les décharges.
Non, je veux pas chercher des idées dans les décharges.
Lundi 4 octobre 1999, Arcueil, dans l'atelier de Yann Vos, peintre. C'est presque un travail d'artisan, là.
Ah oui, absolument. C'est,
sont des éléments pour faire un objet tableau, ou on peut dire un relief en bois monochrome.
On parle d'objet, en fait, on dit d'objet d'art, mais c'est un côté presque péjoratif. Mais actuellement, on se méfie pas un peu des objets?
Peut-être, mais on a tort, je trouve, parce que je trouve que le tableau est un objet, de toute façon, puisqu'il y a une matérialité évidente, et il y a une matérialité qui est accentuée souvent par le peintre, par la touche, déjà, de la peinture, par la matière, comme on dit, la peinture. Et je trouve que le côté tactile et matériel de la peinture, de l'art ou de la sculpture, sont des choses très rassurantes aussi, qui nous lient au monde. Le tableau présente plutôt qu'il représente. Il est en soi une chose qui est, ou un objet qui parle pour lui-même. Je prends l'objet plutôt dans le sens, je veux dire, en dehors du tableau. Pour moi, l'objet est plutôt l'outil. L'outil qui sert à faire des objets. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, disons. C'est le départ d'une réflexion. Comme la réflexion est le départ pour un nouvel objet.
Tu peins toujours au sol,
et
à plat.
Je peins toujours au sol.
En marchant sur la peinture.
En marchant, puisque c'est obligé, parce que les tableaux sont trop grands pour arriver à l'autre bout, si je ne marche pas dessus.
Là, c'est un tableau en cours qui
c'est
autour de Wall Street, le thème, ou quoi? Il y a marqué non. Fat capitaliste. Businessman.
Oui, non, c'est autour, c'est different characters. C'est des caractères différents, on va dire. Enfin, c'est en cours. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner.
Il y a la Belle au bois dormant, Sleeping Beauty. Il y a une qui est à côté de Businessman. Mais donc, il y a toujours une envie de... Enfin, c'est des histoires complètement ouvertes, évidemment, mais... Parce qu'on pourrait voir tout ça immédiatement comme quelque chose d'abstrait, de purement sensoriel, sur les lignes et les couleurs.
Oui.
Mais il y a cet humour qui est toujours présent.
Parfois, j'ai envie d'ajouter un petit commentaire, quoi. Parce que le dessin n'est pas très explicite, hein. Une femme fatale, on ne dirait pas que ce soit... si on enlève le commentaire, on ne la voit pas comme très fatale. Mais
elle a les yeux bleus, ce qui est déjà ça.
Mais il y a une espèce de rapport entre les lettres et la figure assez mal dessinée, assez peu définie, qui m'amuse. Non, c'est aussi comme c'est lié beaucoup aux souvenirs, à une espèce d'introspection. Il y a des figures qui apparaissent comme ça et qui dans une espèce de rêverie qui se dispose, enfin qui se pose sur ma toile. C'est un peu ça, je veux dire, souvent que c'est pas tellement. Une fenêtre vers l'extérieur, comme chez des gens, comme chez des impressionnistes, comme chez Seurat, par exemple, la Grande Jatte, où il y a les personnages au bord de la Seine avec le soleil dessus, et c'est formidable, inondé de soleil. Chez moi, ça vient plutôt de l'autre côté, quoi. C'est de l'intérieur, et puis c'est projeté dehors. C'est quelque chose comme ça, peut-être. C'est plutôt c'est pas une ouverture vers l'extérieur, mais peut-être vers l'intérieur, je sais pas.
Mal dessiné, ça veut dire en fait bien dessiné, enfin, quelque part. Ça veut dire sortir du dessin académique.
Voilà. Mal dessiné, c'est-à-dire sans détail et avec une déformation qui est un peu simpliste. Hein. Et moi, j'aime ça. Aussi, la simplicité du trait. Je ne veux pas être une espèce de spécialiste du dessin parfait, enfin de reconnaissable aussi. Hein. Je ne sais pas très bien expliquer ça.
Tu n'es pas un documentariste par l'image.
Voilà, voilà.
Ouais. Il n'y a pas de ligne droite.
Il y a des lignes droites parfois aussi.
Vraiment enfin, droites.
Très droites, non.
Ils ne sont jamais à la règle.
Non.
Étude 1. Ouais, dessiner le parcours d'une limace. 2. Dessiner le parcours d'un éclair. 3. Comparer les deux dessins.
Tout est fortement engagé ou collaboré ou coordonné avec le hasard. C'est un élément qui fait partie. Et le hasard est... Il vient avec la surprise en même temps. La surprise et le hasard sont deux conditions de la production de ma peinture parce qu'elle me relance tout le temps. Elle relance l'intérêt qu'on peut avoir. S'il n'y avait pas ça, il s'agirait simplement d'une fabrication d'un objet dont on connaîtrait déjà la fin ou l'aspect final. Donc il faut rechercher chaque fois une autre façon de faire, une idée de comment traiter les matériaux, comment traiter la couleur, sur quoi l'appliquer, tout ça. C'est une sorte de créativité aussi, je veux dire, comment faire pas seulement qu'est-ce que je veux faire, mais comment le faire.
C'est donc son univers d'objets à soi, quoi, en fait, qu'on a constitué, qui est une forme de désordre organisé.
Oui, ils sont des objets plus modestes, disons, ou plus anciens, comme des marteaux, c'est presque des choses, des archétypes, des outils qui viennent de loin. Ce sont des choses très simples comme les marteaux, comme des couteaux ou comme des fourchettes avec lesquelles je gratte dans du bois ou dans la couleur. Ce sont des objets qui servent à des manipulations qui sont sans âge. Moi, je crois que l'homme crée toujours un peu de la même manière. Je veux dire, s'il a affaire avec des matériaux comme du bois ou comme la pierre ou comme la toile ou comme la couleur, c'est toujours un peu les mêmes façons de s'en servir de ces objets, de ces outils. Et ça va certainement rester encore très longtemps comme ça. Parce que je vois pas comment on peut, à la longue, se passer de ses mains. Je veux dire, comment on peut ne pas utiliser le savoir-faire des mains.
Que peindre, c'était une activité aussi bruyante.
Si, parfois ça fait beaucoup de bruit. Pas peut-être la peinture elle-même, mais plutôt les fabrications de bricolage. Hein, parce que je suis très lié au bricolage, évidemment. Et là, bon, on a des outils électriques qui font du bruit. Des ponceuses, des scies électriques, des...
Aussi des choses mécaniques quand même, tout n'est pas électrique.
Oui, bien sûr, il y a des des choses. La plupart des choses sont mécaniques, mais il y a certaines choses qui sont plus modernes. Hein.
Table.
J'ai quatre tables. Tu vois, là, il y a une table pour la peinture à l'huile, une table pour les crayons, une table pour les peintures qui se diluent à l'eau, et puis une table avec des outils, avec des scies, avec du bois. Voilà. Donc je peux circuler entre mes quatre tables, et puis ce que je fais d'ailleurs. Et donc changer dans la même journée mon travail. Là sur la table, les tables sont remplies. Il y a
plusieurs tables dans mon atelier, toutes très encombrées.
Tables.
Une grande table de ping-pong destinée à des matchs contre des amis en visite et qui a effectivement servi au début à des compétitions en diable. Elle se trouve maintenant hors compétition pour raison d'encombrement. Petits dessins, factures, tubes de gouache et d'aquarelle, lettres, photos et cartes postales, toutes ces choses bien difficiles à classer ont très vite pris le dessus. D'autres tables, improvisées à la va-vite, une planche sur une paire de tréteaux, le tout souvent un peu branlant, ont l'avantage d'être plus mobiles. Au besoin, on pose le plateau avec toute sa charge par terre et on le remplace par une planche vierge. Très vite, le sol est alors envahi et la circulation dans l'atelier devient aventureuse. Elle me rappelle le parcours que le regard est amené à prendre dans certaines de mes toiles. Un cheminement qui cherche sa voie à travers obstacles, points d'intérêt et directions données.
Il y a des rouleaux.
L'atelier, me semble-t-il, se retrouve souvent comme une mémoire lointaine dans le tableau, comme un reflet discret.
Encore des ciseaux, il y a encore des pinceaux, des couteaux à peindre, des gommes, des bocaux de peinture encore, un morceau de savon, je ne sais pas pourquoi.
Il y a des surprises parfois.
C'est-à-dire, il y a beaucoup d'objets, donc souvent on a du mal à retrouver celui qu'on cherche.
Ah oui, le parcours, c'est aussi la disparition, ou l'objet caché.
C'est pour ça que en double en général.
Temps perdu, peine perdue.
Il y a trois.
Retrouver le temps perdu dans ma vie à la recherche de mes ciseaux.
On a beaucoup plus de chances d'en
trouver. Et aussi celui perdu à chercher mes mots. Une petite éternité à gagner.
Moi, j'ai besoin très souvent, enfin, dans presque tous les tableaux, de transparence. C'est-à-dire, il y a une lumière qui vient de derrière la couleur. Et puis, il y a certaines couleurs où on a moins besoin de cette transparence-là, parce qu'elle porte déjà la lumière en elle. Et puis, il y a aussi des tableaux où on a besoin d'ombre, où on ne veut pas de lumière, où on veut qu'il y ait beaucoup de lumière de l'extérieur, qui serait projeté sur le tableau pour qu'il rende cette lumière-là. Il y a beaucoup de façons de faire, je crois, avec la lumière. Il y a aussi, évidemment, le relief des choses qui compte avec la lumière qui l'anime. Transparence, c'est qu'on compte avec les sous-couches. La lumière vient du blanc qui est sur la toile ou qu'on a appliqué en sous-couche. Et on applique une couche de couleur qui laisse passer cette lumière-là. Donc le blanc qui est derrière.
Il faut toujours essayer de faire rebondir les choses. Quand elles sont fatiguées, par exemple. De retrouver un moment, une idée pour les faire repartir. Par une petite impertinence, peut-être. Façon de voir d'un autre côté.
Déjà vu. Peut-être y a-t-il une sorte d'anticipation, un sentiment de déjà-vu projeté en avant quand un peintre affronte sa toile vierge. Un instinct pareil à celui de l'aveugle qui a une idée de ce qui se trouve devant lui et autour de lui, sans encore en connaître les détails. Voir un peu, déjà, quand il n'y a rien à voir. Avoir une vision de la chose à venir, avoir accès à elle. Cette chose à venir, je la vois immanquablement comme une addition de formes, dessinées, peintes, découpées, etc., que j'ordonnerai plus tard pour obtenir une surface dense et d'une répartition plus ou moins égale. Petit à petit, le champ pictural se peuplera donc de différentes figures ou de différentes formes qui entreront en relation les unes avec les autres simplement à cause de leur voisinage ou par une fortune commune ou encore en réponse de l'une à l'autre. Cette façon de me saisir de l'espace s'est même intensifiée quand j'ai compris l'intérêt que pouvait avoir le collage, moins comme principe que comme facilité de provoquer de l'inattendu. Construire à partir d'un réservoir de données fait penser à la technique cinématographique avec son tournage. « Shooting », disent les anglo-saxons, comme s'il fallait tuer une réalité à la manière des chasseurs de papillons pour pouvoir collecter son image. Ça me plaît d'ailleurs assez de me trouver sur ce point proche du cinéma. Dans les années 60, on pouvait entrer à n'importe quelle heure dans une salle de cinéma et voir le début du film, le milieu ou la fin. En peinture, c'est toujours possible. On ne va quand même pas vous imposer l'heure à laquelle vous êtes autorisé à regarder un tableau et par quel bout vous devez le prendre. Sauf qu'on commence, pour raison d'affluence, à nous imposer des horaires pour les grandes expositions des vedettes de l'art.
Un texte qu'on va lire, on va pas le relire 100 fois, 200 fois, 300 fois, on le relira peut-être. La peinture, on peut très bien regarder des milliers de fois un tableau, surtout s'il est chez soi, si on en a avec lequel on a un rapport intime. Et donc le tableau, le rapport qu'on a à un tableau n'arrête pas de changer. Est-ce qu'un bon tableau, c'est un tableau qui permettrait au regardeur de vivre longtemps avec?
Je pense que oui, hein. C'est parce que sinon, évidemment, on peut retourner le tableau. On peut très bien dire, bon, ben, j'ai tout vu, j'ai tout compris, maintenant ça m'ennuie, je mets de côté. Mais on peut, si c'est un tableau qui a une certaine richesse, je pense que oui, il peut être regardé très longtemps et un très bon tableau devient de mieux en mieux. On découvre de plus en plus de choses, ou on est de plus en plus fasciné par lui. Je pense qu'un tableau fait peut-être ses preuves à la longue, en durant.
Et en même temps, il ne faut pas que son élaboration soit trop lente, il faut que ça aille assez vite, toujours.
Je ne sais pas s'il faut que ça soit rapide, mais il ne faut pas qu'on voit trop l'effort. Et il y a très souvent beaucoup d'efforts et beaucoup de choses qui sont à vaincre. Hein. Il y a beaucoup de défaites aussi. Hein. Il y a souvent le tableau qui est irrécupérable parce que il a... Je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas expliquer, mais probablement parce qu'on a trop insisté sur quelque chose qui n'est pas venu tout seul.
Il faut laisser faire un peu.
Il faut que les choses échappent, oui, aussi. On ne peut pas imposer trop, on ne peut pas... Souvent, on ne peut pas aller contre ce que veut le tableau, disons. Il faut laisser passer aussi les défauts, parfois, les choses qui sont peut-être un peu faibles, mais si on veut tout dominer, le tableau devient un peu ennuyeux.
Oui, là on a devant nous un grand objet qui est accroché au mur, qui est à peu près 3 sur 4 mètres, et qui est constitué de divers matériaux. Du bois, des plaques de tôle ondulées. des rails d'électricité, des couvercles de boîtes de couleurs. Enfin, c'est un espèce d'assemblage de choses très, très diverses. Il se crée évidemment une espèce de relation ou une tension, une relation entre les... pas seulement entre les couleurs, mais entre les textures des différents matériaux. Oui, ça m'a intéressé de voir les différents matériaux se répondre. Je pense qu'on est beaucoup plus libre avec un matériau pauvre qu'avec un matériau qui en soi est déjà beau. Et c'est-à-dire, il faudrait cacher l'esthétique déjà proposée par le matériau précieux. Il faudrait le cacher pour imposer sa propre esthétique. C'est ça la chose qui est difficile.
Vacances. Abandonner un tableau en cours qui m'exaspère à cause des limites brusques de sa surface plane et rectangulaire pour construire un objet en trois dimensions au contour libre me soulage parfois. Le travail part du centre pour arriver petit à petit à définir la forme extérieure de son territoire.
C'est vraiment un travail sur le temps.
Hein. Chez moi, probablement sur le... déjà dans l'action de peindre, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Mais aussi, probablement, dans la lecture, on peut prendre son temps, ou on doit même prendre son temps pour déchiffrer, pour suivre le fil, et pour démêler le fil, pour se faire guider ou pour se faire égarer par ce fil. Donc c'est une lecture qui n'est pas possible d'un coup d'œil. Maintenant, le temps, je ne cherche pas à reproduire du temps, bien sûr. Mais c'est un peu comme une lecture, le temps qu'on prend pour une lecture d'une page de littérature. De même, on prend ce temps. Il y a un certain temps qui est nécessaire.
Tu as toujours envie, besoin de faire des très grands tableaux,
Yann ? Oui, oui. Oui, j'ai du mal à faire des petits tableaux, disons. J'ai envie de faire des grands tableaux parce que j'additionne des éléments. Le plus d'éléments additionnés que je peux additionner, le mieux c'est. Et c'est le mieux on peut circuler sur le tableau.
On peut difficilement te qualifier de minimaliste.
Non. Non. Il n'y a pas de maximalisme encore, mais ça va venir.
Pourtant, les peintures sont quand même... Il y a une grande accumulation, ça procède par accumulation, mais il y a aussi une certaine légèreté. Il y a un espace qui n'est pas bouché, et la circulation est quand même... On n'est pas dans les ronces, quoi, si on veut faire une métaphore avec la nature.
J'aime bien l'idée de la circulation des yeux sur un tableau, sur le tableau. Et... il y a des espèces de propositions de parcours qui sont des indications. Il faut qu'il y ait une liberté d'entrer dans le tableau et d'en sortir comme on veut.
Il y a un côté cartographie un peu.
Oui, aussi, oui. On peut dire ça. C'est qu'il y a des espèces de continents qu'on peut visiter à travers des voies de circulation. C'est la légèreté qui m'importe aussi. Hein. Maintenant, il y a aussi des peintures qui ont beaucoup plus de couleurs. C'est-à-dire que je commence avec un fond en couleur. Oui, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'aime beaucoup
que la couleur soit très très forte.
Oui, parce qu'il y a eu pas mal de tableaux qui étaient assez blancs à un moment donné.
Avant, c'était... Oui, il y a beaucoup de couleurs qui, de fond qui sont blancs, qui ressemblent à une inscription sur papier.
C'est la conquête de la couleur, alors, avec le temps. C'est ça, le rajeunissement permanent. On dit avoir des couleurs. Quand on dit quelqu'un de bonne couleur, c'est qu'il se porte bien.
Oui, très bien. Oui.
Je sais
pas. Oui, très bien. Ça va encore. Il fait frisquer.
Il faut bouger
un peu. Ah, je vais chercher.
Jeudi 9 janvier 2003. Arcueil, atelier de Jan Vos.
Voilà un tableau un peu récent qui est d'il y a 2 ans.
Mais alors là, ce qui est intéressant, puisqu'on ne peut pas visualiser un tableau par la parole... Par contre, on peut dire qu'il y a un lapin, une tête de mort, un haut de fantôme, une maison, un arbre.
Oui, on peut découvrir, il y a une personne couchée là-haut. Et au milieu, il y a une personne sur un fond vert en jaune.
C'est un vivant ou...
C'est un vivant, oui. Et il est en plein centre du tableau. Et le tableau s'appelle « Égoïsme
». Et la tête de mort, là-bas, c'est la première fois que je vois un signe de cet ordre.
Oui, mais pour moi, c'est pas tellement une tête de mort, mais...
Un crâne, quand même.
Peut-être, oui. Mais je trouve que c'est un crâne vivant. Je ne sais pas, il est participant à la vie du tableau.
Et le lapin, là ?
Le lapin a 3 pattes. Ben, le lapin, de toute façon, il est vivant.
Beaucoup d'animaux, quand même, dans tout ça. J'ai remarqué.
Oui, ah oui. Non, mais les animaux sont très pittoresques et très vivants. Et moi, j'ai une grande admiration et une grande sympathie pour les animaux que je trouve très, très beaux, en général. Très gracieux, surtout.
Ce qui est frappant, là, c'est l'ordre dans cet atelier. Les peintures sont rangées, protégées. Ça fait partie du travail.
Oui, oui, oui. C'est un grand travail de ranger les tableaux, de les déplacer, de les emballer. Enfin, les emballer, c'est en général les transporteurs qui font ça et qui les ramènent emballés. Donc... Je les laisse emballer en général.
Et... Ils circulent beaucoup ces tableaux ?
Oui, 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 pas mal. J'ai toujours un programme important d'exposition, même trop.
Et en 40, 45 ans ou plus de peinture, il n'y a jamais eu de creux ?
Ben si, il y a des creux. Oui, il n'y a pas des années entières où il n'y a rien du tout. Mais il y a des moments où vraiment, on n'a pas envie, où ça va pas, ça vient pas, où on ne fait même pas l'effort d'essayer de faire quelque chose parce que il y a une espèce de dégoût, une fatigue.
Activité. Les lignes sont les mouvements d'un tableau, son activité. L'activité d'un tableau est souvent extrêmement déconcertante. On voudrait bien comprendre où elle veut en venir avec tous ses parcours, ses sauts et arrêts subis. Mais quand parfois les lignes, en perte de vitesse, languissent, il faut les secouer sérieusement pour qu'elles ne s'endorment pas. Surtout, ne jamais concéder de repos à une seule ligne.
Il
Et aussi l'idée d'empreinte des objets qui est importante.
Oui. En fait, au début, avant de faire des objets en relief ou des sculptures, j'ai fait beaucoup de tableaux qui sont faits à partir d'empreintes d'objets, surtout des grilles ou des choses qui sont imprimées sur la toile.
Et qu'on reconnaît ou pas?
Si, on reconnaît, oui. Mais ce sont des choses simples. Hein, je veux dire, c'est des choses comme des grilles, des
une raquette de tennis, non?
Voilà, mais qui aussi sont des grilles aussi. Hein. Je pense que les empreintes ne racontent pas autre chose que leur structure. Maintenant, il y a les tableaux qui sont beaucoup plus parlants, qui sont des... Par exemple, il y a un grand tableau que j'ai fait qui était très, 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 très rempli de signes et de figurations que j'ai appelé roman. Donc, ça signifie que ça parle beaucoup. Mais ça n'a rien à voir tellement avec les objets, c'est plutôt...
On parle d'objets silencieux à propos de peinture ou de sculpture. Est-ce qu'ils sont vraiment silencieux?
Oui, non mais on peut, hein, mais en même temps on dit qu'un objet est parlant, hein. Ça veut dire qu'il a quelque chose à dire. Ou qu'il a une expression. Donc les objets sont-ils vraiment silencieux? Je ne sais pas. Je ne pense pas, non. Je crois que tous les objets nous parlent. Plus ou moins. Et là, c'est la pluie qui parle sur la toiture.
C'est un objet, la pluie?
Ben, des gouttes qui tombent, on pourrait dire. Ce sont des petits objets... très individuel.
Sécher avant de coller.
On peut peindre avec la pluie d'ailleurs.
En avant.
Je vais laisser les choses dehors.
Cryo.
Oui. La pluie, oui. Oui, oui.
En plein dedans.
Oui, oui, je crois que tous les peintres essayent ça.
Site polychrome.
Moi, je l'ai essayé aussi.
Petit cancre. Savante, mais myope. Remue-ménage. Peut-être 6. L'un debout, l'autre pas. Pas fameux. 2x2. Piégé. Pourquoi lui? Entre les lignes, tricéphale, mais oui, ça tient. Ce n'est pas un coucher de soleil. Plus jeune, mais pas plus beau. Beaucoup, mais pas trop. Planté en rang. Une céramique ne craint pas la pluie. Désert ou oasis? Dans son cadre.
Tous les tableaux avaient des titres.
Désœuvrement. Allons, courage.
C'était à peu près jusqu'en...
Ensemble.
1968.
Tour de petite taille.
Après, il y a eu de longues années sans titre. Tous les tableaux étaient sans titre. Qui correspondaient à une espèce de désengagement d'une signification, je dirais, où j'avais l'impression qu'une communication avec l'autre était devenue impossible. Et depuis quelques années, il y a de nouveau des titres, comme les lieux dits. Où le dit, la parole fait partie du tableau.
En relief aussi, mais beaucoup plus lourd. Au revoir, avec modération. Prix de haut, happy end, compagnon de route. Des soucis, pas comme les autres, dedans et dehors. Commerce, introverti, un vamba, ciel d'Arles, à jour fixe, de choses et d'autres. Vertige, à table, suite, profil, pas d'accord, au suivant, grimper pour mieux tomber, tremblement, journée dans les arbres, tout y est déjà, noir sur blanc.
De dessins, de toiles. Je dis chute, est-ce que c'est le mot? C'est quoi ça?
Ça, c'est un petit croquis.
Mais pourquoi
l'aquarelle
dans un sac comme ça?
Oui, parce que
Des fois, il y a des choses qui sont juste des esquisses ou des traits qui vont me servir peut-être pour faire autre chose.
Par contre, tu les jettes comme ça. C'est pas, il y a pas de, il y a rien de précieux dans tout ça.
Rien n'est précieux avant que ça soit définitif. J'ai toujours trouvé que j'étais très maladroit et que j'ai beaucoup de... J'ai toujours admiré les autres parce que je trouvais qu'ils avaient beaucoup de métiers que je n'avais jamais... Que j'ai jamais rien appris comme ça, comme manuellement.
Est-ce qu'on peut dire que ton travail a été de t'inventer ta propre technique ?
Voilà, exactement. C'est, je veux dire, une grande partie de ce que je peux... prétentieusement appeler ma créativité, c'est la recherche de me débrouiller avec une technique que je peux plus ou moins dominer, que je dois inventer et que je peux éventuellement dominer plus ou moins.
Réponse. Formule pour décider du moment où le tableau est fini. Il rend le regard.
C'est un peu de... Faut le mettre debout.
Tu te sens toujours jeune?
Oui, oui, je n'ai pas compris encore que j'étais vieux.
C'est la peinture qui aide à ça?
Oui, probablement. Je n'ai pas d'idée préconçue pour la peinture. Je ne sais pas, je n'ai pas fixé mon style, comme on dit. Donc j'ai toujours envie d'essayer différentes choses et d'élargir mon langage de peintre. Je crois que l'action de peindre, je veux dire, l'effort physique de la peinture, ça garde aussi un peu jeune. Quoi.
Jeunesse. Les propos et les travaux de certains jeunes peintres me semblent datés du temps de mes grands-parents. Il faut du temps pour devenir jeune.
La peinture a un peu tendance à, pas encore à disparaître, mais elle est un peu évacuée dans notre 21e siècle.
Oui, c'est ce qu'on dit souvent, mais moi je vois pas ça. Je vois pas du tout ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup de peintres, et puis de plus en plus d'images, de toute façon. Il y a même la bande dessinée qui a pris une grande place dans l'imagerie aujourd'hui. Il y a même un festival... de la bande dessinée. Alors, moi, je vois pas du tout c'est ce qu'on dit toujours, que la peinture a perdu son intérêt ou est en train de disparaître. Je vois pas. Et puis, je crois que ça va toujours rester. Ça a toujours existé. Ça va toujours. C'est un besoin. Je veux dire, tous les enfants commencent à dessiner, à peindre. Alors, je vois pas. Je trouve que c'est un geste tout à fait humain et durable.
Soi-disant fin de la peinture, c'est surtout pour faire causer ceux qui peignent pas. Alors.
Enfin, moi, je trouve que très bien aussi tout ce qui n'est pas peinture. Hein. Je veux dire, il y a des vidéos qui sont très intéressantes. Il y a toutes sortes d'idées qui n'ont pas besoin d'être peintes et qui sont des objets qui font réfléchir ou des installations qui sont très 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 nouveaux et très, c'est autre chose quoi, c'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut complètement évacuer la peinture.
Vérité. Ma méfiance à l'encontre des puristes, prophète de la ligne droite, mais aussi des messies de la couleur pure ou de toute autre vérité restrictive. Ces vérités-là ne sont que motifs d'exclusion, peur de l'inconnu et des recherches incertaines. Une position de confort, en somme, avec la conviction de connaître le chemin qui mène au paradis.
La peinture, c'est une obstination, en fait, avant tout.
Je ne sais pas ce que c'est.
Le mieux, c'est dire la peinture, c'est la peinture.
Voilà, c'est un besoin, comme ça. C'est, je veux dire, c'est une exploration aussi. C'est, je veux dire, ce que font les enfants, c'est pour apprendre le monde, un peu, de réagir sur le monde, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils vivent. C'est la même chose, je crois, plus tard aussi.
Ça, c'est aussi une chose qu'on dit souvent, c'est que c'est l'enfant se retrouver à volonté.
Voilà. Ou c'est une continuation de voir, de réfléchir sur le monde, ou de réagir sur le monde.
Mais vu comme le monde va si bien en ce moment, la réaction est différente.
Oui, ça peut être le contraire. Je veux dire, quand ça va très mal, on prend le pied le contraire. On s'en moque, quoi. L'ironie, c'est une façon de réagir aux difficultés.
C'est toujours quotidien, le travail de peinture?
Plus ou moins, oui.
Jan Vos.
J'ai pensé, tu vois, il y a un texte qui va très bien avec ça de Peter Handke, qui est celui-là, et que tu pourras peut-être lire.
C'est moi qui l'ai
plus tard, je sais pas quand tu veux. Mais c'est pas maintenant, je veux dire.
Les tableaux de Jan, son jeu, comme une manière de jeter les choses, mais jeter avec une tendre ironie, non par terre, mais en l'air, très haut. Et les choses jetées de cette façon, au lieu de tomber, restent en l'air comme suspendues. Est-ce de l'herbe? Est-ce un dragon papier au-dessus de la porte de la Villette? Est-ce une boule de neige? C'est un contour. De même que le pauvre Dante, perdu au milieu de son chemin de vie, aperçut Virgile qui venait à sa rencontre comme contour. Les tableaux de Jan comme reflet d'un peintre jour par jour, et rien que le jour paisible, dernière correction. Une nuit, je passais dans ma maison, devant une de ces toiles, et vit dans l'obscurité une réplique de cette bataille, jadis peinte par Uccello, bataille implacable, sombre, sans horizon, et sans aucun espace intermédiaire entre ces contours, qui cherchaient à s'entretuer, sans cesse, jusqu'à l'aube. À la recherche de Jan Vos. Par Christian Rosset. Avec Jan Vos, enregistré dans son atelier à Arcueil les 11 décembre 1991, 4 octobre 1999, 7 et 9 janvier 2003 et le 6 septembre 2016. Texte de Jan Vos, extrait de À la couleur, Mercure de France 2006. Lu par Anne Stephens. Partition sonore de Christian Rosset, soliste, Dominique Clément, clarinette basse, Christophe Roy, violoncelle, et Sylvie Drouin, piano, membre de l'ensemble Aleph. Production, coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Gaël Gillon.
Demain, à 23h, vous retrouverez Chanson Boom par Hélène Azéra. Mercredi prochain, ce sera Disparition par Tony Ayer. Jeudi, un ACR signé Boris Charmatz.